Laughter!
Bonjour et bienvenue dans le numéro 68 de Jaf ta mère sur RLP. Jaf ta mère, l'émission sur la famille contemporaine, partie pour une nouvelle saison, donc ensemble avec un programme génial pour les semaines à venir. Nous commencerons aujourd'hui avec Agnès Naudin en deux parties, aujourd'hui et la semaine prochaine. Madame Naudin est une capitaine de police qui a commis plusieurs ouvrages et qui nous parlera donc des violences familiales, de son aperçu de la famille durant son travail. Nous enchaînerons avec Franck Blanchard, major de police, qui lui aussi intervient et parle par rapport également aux violences familiales et surtout aux abus, des placements et des interventions parfois maladroites des services sociaux. Joël Monzé, docteur en neurosciences, sera également au programme. Nous avons aussi des nouvelles d'Arnaud. Arnaud, on fera une émission dédiée parce qu'il a récupéré la garde de son petit Loïc après quand même presque 2 ans de très 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 grosses galères dont nous vous avons parlé ici régulièrement. Et donc, la semaine dernière, vous avez eu droit à des extraits de la conférence Lux Media au Québec sur les enfants au centre, avec des interventions notamment de Richard Boutry et Francis Lalanne, où nous avons essayé de représenter notre pays, la France. Mais auparavant, quelques actualités, ne bougez pas, c'est juste après ça.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
L'heure de l'égalité parentale, samedi 4 septembre 2021, à 13h à Paris, place de la Concorde, un événement inédit organisé réunissant des mères, des pères et des grands-parents. L'objectif, faire respecter par la justice les droits de l'enfant dans les séparations et faire appliquer l'égalité parentale devant les tribunaux. Ce n'est pas le cas dans 9 jugements sur 10, l'enfant est confié à un seul parent. Un enfant a le droit de voir autant ses deux parents après une séparation. La conséquence est une explosion des exclusions parentales de parents aimants, investis et bienveillants. C'est une action qui sert à interpeller le gouvernement afin que les affaires familiales soient réformées dans le cadre du projet de loi pour la confiance dans la justice. Ces lois doivent évoluer pour s'adapter à l'évolution de la société.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
RLP 102.3, aujourd'hui avec Agnès Naudin. Agnès Naudin est capitaine de police en disponibilité après 10 ans d'exercice, dont 3 au sein d'une brigade territoriale de protection de la famille, si j'ai bien compris. Elle est auteure, autrice, au Cherche Midi ainsi que chez Robert Laffont. Elle a écrit notamment Enfance en danger, Affaires d'ado, Affaires de famille et Avis de recherche. Agnès, vous êtes là ?
Oui, bonjour.
Bonjour, bonjour, merci beaucoup d'être venue. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, vous présenter, dire votre parcours, ce qui vous a amené à faire votre métier, ce que vous avez fait dans votre métier et en quoi consistait effectivement ce travail-là ? Dites-nous.
Alors, j'ai toujours voulu être policier depuis toute petite. Je voulais travailler sur tout ce qui était les enlèvements internationaux d'enfants et les réseaux de prostitution de l'Est, mais depuis toute petite. Donc, je pense que je ne savais pas trop ce que ça voulait dire à ce moment-là. Donc, j'ai grandi sans me poser de questions jusqu'à arriver à la fac, où j'ai fait du droit, toujours dans cette optique de rentrer dans la police. J'ai fait mes 5 ans de droit, parce qu'entre-temps, je me suis un peu perdue. J'ai découvert d'autres matières dans le droit, et notamment le droit de la famille, qui me plaisaient beaucoup. Je me suis posé la question d'être avocate à ce moment-là. J'ai passé des concours d'avocat 2 fois. La première fois, je l'ai raté à l'écrit et la deuxième fois à l'oral parce que juste avant de rentrer dans la salle d'examen, on m'a posé une question, on m'a demandé pourquoi est-ce que je voulais pas plutôt passer le concours de la magistrature et j'ai répondu parce que le seul truc qui m'intéresserait, ce serait d'être procureur ou juge d'instruction et en fait, je me suis rendu compte que du coup, j'étais pas du tout à ma place et que la présomption d'innocence, c'était pas trop mon truc. Donc, pour éviter de faire une carrière horrible dans l'avocature, je me suis réorientée à ce moment-là vers ce que j'avais toujours voulu faire au final, et j'ai passé les concours de commissaire et d'officier, en même temps, et j'ai eu celui d'officier. Donc, je suis rentrée dans la police par cette voie-là en 2010. Donc, j'ai fait un an. Alors, j'ai fait 5 ans de droit en droit international privé, donc vraiment rien à voir avec le pénal. Ensuite, je suis partie pendant un an à l'étranger, en Italie. Donc ça, c'était très intéressant de vivre aussi à l'étranger et de découvrir d'autres cultures, même si elle est proche de la nôtre. Et quand je suis rentrée d'Italie, j'ai fait tout court l'Institut de criminologie de Paris pour pouvoir justement raccrocher les wagons avec tout le droit pénal pour passer les concours d'officier et de commissaire. Donc quand je suis rentrée dans l'école des officiers, j'y ai passé un an et demi. Et ensuite, l'objectif pour moi à cette époque-là, c'était un, d'être commissaire, et deux, de retourner vivre à l'étranger parce que j'avais adoré vivre en étrangère. Et donc, avec toutes les personnes que j'avais rencontrées qui m'avaient demandé, qui j'avais demandé ce qu'il fallait faire pour pouvoir repartir à l'étranger, tout le monde m'avait dit, il n'y a que deux voies, c'est ou l'immigration ou les stupes. Et voilà, comme les stupéfiants, ça m'a jamais intéressée, j'ai pris la voie de l'immigration et je suis arrivée à la police aux frontières en sortie d'école pendant 4 ans. Et là, j'ai été pendant un an en aérogare, pendant 2 ans à l'éloignement des étrangers et la dernière année, j'étais au Bourget. Sur ces 4 années à la police aux frontières, j'ai un peu appris la manière dont se passait l'immigration en France, en tout cas en bout de parcours et qui n'est pas bien évidemment la partie la plus facile psychologiquement, parce qu'effectivement ça veut dire reconduire les étrangers à la frontière alors qu'ils n'ont pas envie de prendre l'avion et qu'ils font tout pour essayer de ne pas le prendre, donc se tailler des veines, se déféquer dessus, faire des choses qui psychologiquement parlant n'étaient pas évidentes. Et puis ensuite, toujours dans cette optique de passer le concours de commissaire, je savais qu'il fallait reprendre un peu les études, parce que ça faisait pas 4 ans que j'avais rien fait, parce que quand j'étais à Roissy pendant 2 ans, j'ai repassé un master 1 et 2 en relations internationales, justement pour me remettre un peu dans les études et en prévision de passer le concours de commissaire. Et j'ai réussi à intégrer une formation en interne pour préparer le concours de commissaire en interne cette fois-ci, puisque j'étais arrivée à 4 ans, et donc ce qu'on appelle Situ plus 4, on pouvait intégrer cette formation-là. Donc je suis partie à Clermont-Ferrand, entre-temps j'avais eu un enfant, donc je suis partie avec mon petit garçon sous le bras de 2 ans et demi à Clermont-Ferrand pendant 6 mois pour repasser cette formation, pour faire cette formation-là, pour passer le concours. Et dans le même temps, j'ai demandé une mutation pour aller dans un service d'enquête, parce que une des caractéristique du commissaire, c'est qu'il doit être polyvalent. Et donc forcément, il y a en fait déjà 4 ans à la police aux frontières. Plutôt que d'y retourner après cette formation, je préférais changer et aller apprendre un autre métier de la police qui était celle des enquêtes. Donc j'ai demandé ma mutation dans un service de départemental, pas dans un commissariat, parce que je savais que la différence entre les commissariats et la PJ, c'est que les commissariats ont fait des 100 mètres en fait toute la journée, c'est-à-dire de l'abattage de garde à vue à longueur de temps. Alors que quand on est dans des services d'enquête comme la police judiciaire, ce sont des enquêtes qui sont beaucoup plus grosses et donc du coup qui prennent plus de temps. Et mon caractère, c'est plutôt d'être marathonienne que de courir le 100 mètres. Donc j'ai pris un entre-deux entre le commissariat et la police judiciaire. Il y a les services d'enquête départementaux. Et à l'époque, j'ai demandé de la place à côté de là où je vivais pour que mon fils puisse rentrer à l'école, et que comme j'étais mère célibataire, il fallait bien que je m'en occupe. Et de devoir le déposer à l'école tous les matins. Et donc, dans ce service-là, il y avait 3 places. Il y avait une place dans les stupéfiants. Il y avait une place pour l'anticambriolage et une autre place pour les mineurs. Et donc, de manière naturelle, je suis allée vers les mineurs parce que, encore une fois, tout ce qui était stupéfiant et qui n'est donc pas une matière, on va dire, très psychologique, ne m'intéressait pas. Et c'est comme ça que j'ai atterri à la brigade territoriale de protection de la famille d'un département d'Île-de-France. Et j'y ai passé 3 ans. Et j'ai commencé à écrire quand j'étais en poste le premier livre, Affaires de famille, qui est sorti en 2018. Donc là, ça faisait 2 ans que j'étais en poste. Et ensuite, j'ai écrit le deuxième. Sauf que l'écriture des livres et la médiatisation qu'on a suivie n'ont pas forcément plu à ma hiérarchie et j'avais peur. Et donc, du coup, avant de sortir ma petite bombe dans le deuxième, je me suis mise en disponibilité. Voilà, comme ça, j'étais au moins, je sortais un peu de la pression ambiante générale. Et voilà, c'est comme ça que j'ai écrit le. Donc, je suis en disponibilité depuis 2 ans. Et j'ai écrit le deuxième, le troisième et puis ceux qui en ont suivi derrière.
D'accord. Alors, en fait. Parce que nous, ce qui nous intéresse, on va creuser les 3 ans que vous avez passé à la brigade de protection de la famille. En quoi consiste ce travail? Qu'est-ce que vous faisiez là-bas? Qu'est-ce que vous avez vu durant 3 ans? Qu'est-ce que vous avez fait durant 3 ans?
En tant qu'officier en brigade territoriale de protection de la famille, on a 2 rôles. C'est le rôle d'officier, donc tout ce qui va être administratif, gérer les dossiers, les relations avec le parquet, gérer les relations avec les institutions, avec notre hiérarchie, etc. Donc ça, c'est la partie, on va dire, rôle de l'officier. Et j'étais aussi enquêtrice. Donc ça veut dire que, au même titre que tous les autres gardiens qui étaient dans mon unité, on travaillait toujours par 2. Donc chaque semaine, il y en avait 2 qui étaient de permanence. Et tous les dossiers qui rentraient sur cette semaine-là, c'était nous qui les prenions. Et puis après, les autres semaines où on n'était pas de permanence, on traitait toutes les affaires qu'on avait en portefeuille.
Qu'est-ce que c'est comme genre d'affaires? Qu'est-ce que vous faisiez?
Donc, dans mon service, ce qu'on appelle un protocole de saisine, ça veut dire les types de faits pour lesquels nous sommes saisis et qui sont, en termes de gravité, entre un commissariat et la police judiciaire. En gros, de manière générale, c'est tout ce qui regroupe les viols et les agressions sexuelles sur les mineurs, intrafamiliales, et intra-institutionnel. Donc intra-institutionnel, ça veut dire en lien avec l'école, avec les scouts, avec les prêtres, avec ce qui va représenter une institution et ce qui représente beaucoup de travail parce que ça veut dire beaucoup d'auditions pour aller vérifier s'il n'y a pas d'autres victimes. Ce que les commissariats ne peuvent pas faire parce que ça demande beaucoup de temps et eux n'ont pas ce temps-là. Une des spécificités de notre service et qui nous distingue justement de la PJ, c'est que le lien entre l'auteur et la victime, chez nous, il était forcément connu. Ou connaissable, c'est-à-dire juste si on avait au moins un numéro de téléphone, pour nous c'était identifiable. Ça veut dire que on va pas aller s'occuper du mineur qui va soit se faire enlever dans le métro par X lambda, ou d'une mineure qui va se faire violer quelque part dans une cave. Si on ne sait pas qui c'est, ça demande des moyens de recherche d'abord des auteurs que nous n'avions pas, nous, ça n'était pas dans notre ressort. Donc tous les signalements qui arrivent chez nous, ça veut dire qu'on sait forcément dès le départ quel est potentiellement l'auteur qui a été visé par cette plainte. On n'est pas sur du contre-X, d'accord? Oui, mais du coup, ça enlève beaucoup d'affaires, ça enlève toutes les fugues de mineurs, tout ça, ça faisait pas partie de notre travail. Et après, c'est tout ce qui était les violences graves, donc au sein du couple, donc violences conjugales, et les violences sur les mineurs, jusqu'au bébé secoué décédé. Et là, par exemple, la PJ, eux, ne faisaient pas les bébés secoués décédés. Ça, c'était vraiment, c'est notre partie. Donc, en termes de faits ou d'incrimination, la plupart des dossiers, c'était quasiment à 75% des viols et des agressions sexuelles sur les mineurs. Et on va dire le reste qui concernait les violences familiales graves. C'est-à-dire pas juste une claque. C'est un coup de couteau, c'est un bébé qui est décédé, c'est des marques visibles avec un certain nombre d'ITT, comme on dit, parce que c'est comme ça qu'on faisait la répartition. ITT, c'est interdiction temporaire de travailler. Donc, voilà. J'espère avoir été exhaustive.
Vous avez dû en voir quelques-unes, je pense, durant 3 ans. Bon, rassurez-nous, il y a encore des gens bien, ça existe, il y a des familles qui fonctionnent bien. Il y en a encore quelques-unes.
Alors, disons que forcément, quand elles arrivent dans ce genre de service-là, c'est qu'il y a un dysfonctionnement quelque part.
Oui. Voilà, des familles ça dépend, qui vont vous bien, savez, des fois, il y a votre fille qui rentre de l'école avec un problème, vous êtes pour rien. Hein.
C'est ça. C'est pour ça que je dis, il y a un truc qui est dysfonctionnant. Nous, c'était de l'intrafamilial. Donc, comme c'est de l'intrafamilial, forcément, au sein de la famille, ce sont des familles qui sont dysfonctionnantes. Quand c'est un problème qui est relatif à l'école, non. Après, des gens bien évidemment, il y en a partout. Des gens qui, j'ai plus souvent rencontré des gens qui étaient démunis, ne sachant pas quoi faire, ne sachant pas comment. Là encore hier, j'avais une dame au téléphone qui cherchait de l'aide parce qu'elle pensait que sa fille se prostituait, etc., etc. Oui. Et démunie parce que ça peut arriver à n'importe qui et que quand l'adolescent veut pas ni se faire suivre, ni aller voir un psy, ni discuter, ni communiquer, qu'on soit psy, flic ou infirmière de l'école, on se trouve face à un mur. Donc j'ai souvent plus rencontré des parents qui étaient démunis par rapport à une situation qui n'était pas de leur fait que l'inverse.
D'accord. OK. Merci.
can wait on the shore. Till the next one, there'll be one more. And every gambler knows that to lose is what you're really there for. Summer, I was fearlessness. Now I speak into an answer phone, like every fallen leaf on the breeze. Winter wouldn't leave it alone. If you go, if you go your way and I go mine, are we so?
RLP 102.3, seconde partie avec Agnès Naudin, qui nous a expliqué un peu son travail dans la brigade territoriale de protection de la famille durant 3 ans en Ile-de-France. Dans votre travail, je pense qu'une partie de votre travail a fait que vous avez été confronté aux conflits familiaux et aux séparations, je pense, avec leurs effets de bord. Vous confirmez ?
Oui, tout à fait. Mais après, il y a une instrumentalisation de la part des parents aussi. Dans leurs conflits familiaux on va dire du droit pénal.
D'accord.
Il faut bien faire la distinction entre ce qui se passe aux affaires familiales devant un juge aux affaires familiales et ce qui se passe au pénal devant un procureur.
Donc j'ai pas les effets de bord. Les séparations passent mal, les gens se tapent un petit peu dessus, ils s'enfuient, ils se piquent les enfants, ils se font des crasses les uns envers les autres et malheureusement certains arrivent un petit peu vers vous. Alors on va commencer déjà, vous aimez réfléchir, étudier un petit peu la société. Est-ce que vous pensez que les parents d'aujourd'hui sont les mêmes que ceux d'il y a 30 ou 40 ans? Est-ce que le fait de faire ce travail-là vous a fait réfléchir sur ce sujet?
Alors, pas que ce travail-là, parce que je pense que c'est une réflexion qui est plus globale sur notre société. Déjà, notre société aujourd'hui ne ressemble pas à celle d'il y a 30, 40 ans, on va dire, des 30 glorieuses.
Vu vos livres et tout, c'est votre avis que je voulais avoir.
Mais sur les parents, il y a 30, 40 ans, j'étais en train de naître, donc je ne sais pas exactement. Enfin, si je me réfère à ma propre famille et à la manière dont mes grands-parents ont éduqué mes parents et leurs frères et sœurs, bien évidemment qu'il y a un changement déjà au niveau de l'autorité. L'autorité est un concept qu'on a perdu, je pense, sur ces 30-40 dernières années. L'autorité, déjà, les parents sont beaucoup moins autoritaires aujourd'hui qu'avant. Ça, c'est, je pense, un problème. D'un autre côté, les parents sont, à mon sens, plus présents aujourd'hui qu'ils ne l'étaient avant, parce que les femmes, effectivement, sur ces 40 dernières années, se sont toutes mises à travailler, ce qui n'était pas forcément le cas. Donc, ça a mis de facto un certain... ça a changé ou bousculé l'équilibre qu'il pouvait y avoir avant, où c'était l'homme qui travaillait et la femme qui restait au foyer et qui s'occupait du foyer, des enfants et du reste. Aujourd'hui, on est passé... il y a 20 ans, par une période où les femmes endossaient et le travail et la maison, etc., et où l'homme n'avait pas encore réussi à prendre sa place, entre guillemets, au sein du foyer. Et je pense qu'aujourd'hui, on arrive un peu plus à cet équilibre-là, où les jeunes de ma génération et plus ceux qui sont même à 10 ans en dessous, sont beaucoup plus présents au sein du foyer, beaucoup plus présents pour leurs enfants, ont un rôle non pas que d'autorité dans le sens pater familias, mais aussi d'éducation et de jeu, prennent beaucoup plus de temps pour les affaires de famille, en règle générale, que c'était le cas avant.
Alors ça, c'est intéressant parce que nous, on est convaincus de tout ça, on en a parlé avec pas mal de gens, on voit bien que les comportements parentaux d'aujourd'hui ne sont pas ceux de nos grands-parents, les gestes par rapport à l'enfance ne sont pas les mêmes. Pourtant, on a un regard très critique sur l'institution qui nous semble très souvent avoir des schémas désuets et s'immiscer dans les familles et dans le règlement des familles avec parfois des comportements un peu caricaturaux. Mais je voudrais savoir, vous, dans vos gestions, vous avez senti, vous, que les parents étaient plus impliqués, même si parfois ils déconnaient, parce que vous voyez en fait ce qui marche mal. La question sous-jacente, c'est que est-ce qu'il y a autant de violence intrafamiliale aujourd'hui qu'auparavant ? Est-ce que cet intérêt des parents vers l'enfance d'aujourd'hui qui est plus important que ceux de nos grands-parents, quand je vois en fait toutes les horreurs, toutes les problématiques de violence sur les enfants, il y en avait autant auparavant ou c'est qu'auparavant on ne s'en occupait pas ?
Alors, je pense que il y en a autant qu'avant. Ça, c'est quelque chose qui n'a pas changé. De même que on dit souvent, on a découvert il y a 3 ans que les femmes pouvaient être violées dans le cadre du couple, entre guillemets. Ça, on le savait déjà que les femmes pouvaient se faire violer par leur mari, mais on partait du principe que s'ils étaient mariés, c'était du devoir conjugal. On est en train de découvrir qu'effectivement les enfants peuvent être aussi victimes de sévices sexuels et en ce moment on en parle beaucoup de l'inceste, donc c'est comme si c'était un truc qui émergeait où on se dit oh là là il y en a plein, il y en a de plus en plus. Moi je pense toujours la même chose, c'est que non, il y en a pas plus, il y en a pas moins, c'est qu'aujourd'hui on en parle.
D'accord, on s'en occupe.
Ça veut pas dire que on en parle déjà, alors après on s'en occupe, c'est encore une autre chose, mais au moins déjà on en parle. Donc on prend conscience du problème et on regarde les choses un petit peu différemment. Les institutions essayent de mettre en place ce qu'ils peuvent pour pouvoir mieux gérer et mieux appréhender ces problématiques qui sont uniquement psychologiques. Et donc quand on touche plus au matériel et qu'on touche au psychologique, là on ne peut pas dire que les institutions soient ni formées ni préparées ni ont les moyens de rentrer entre guillemets dans ces sphères-là qui sont les sphères de l'intime et voilà, et généralement tout ce qui se passe à l'intérieur de la famille, on ne veut pas savoir, on ne veut pas s'en occuper et donc on le met de côté. Je pense que les violences sont les mêmes. Je pense que, à contrario, je pense que comme les hommes sont plus au foyer, ça ne veut pas dire qu'il y a plus de violence, ça veut juste dire qu'il y a plus d'hommes qui s'occupent de leurs enfants et ça, c'est très bien. En revanche, dans ma partie à moi, n'ayant que les parties dysfonctionnantes et qui sont en rapport avec les abus sexuels, ce qui est sûr, c'est que la plupart des auteurs, 99,9% sont des hommes et non pas des femmes.
Ouais,
donc, forcément, quand on rentre dans ces infractions-là, donc je ne parle pas des violences, je parle des viols, parce que dans les violences, là, c'est moins. Il y a aussi des femmes qui sont violentes, et ça, ça c'est quelque chose qu'on sait. Mais voilà, les femmes sont violentes physiquement ou moralement, mais pas dans ce qui a trait à la sexualité, au problème des infractions sexuelles. Mais quand nous on ne traite que des infractions sexuelles, forcément quelqu'un, un auteur qui est mis en cause pour des affaires comme ça, c'est pas un béni oui et donc forcément souvent ça s'accompagne de violences faites aux enfants, etc., etc. Donc moi je n'ai que les hommes qui dysfonctionnent dans ces familles là.
D'accord.
J'ai pas un regard objectif sur la société dans son ensemble. C'est ça que je veux dire.
D'accord. D'accord. Non, moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir si jamais le fait que les parents s'impliquent plus auprès de leurs enfants faisait qu'il y avait une diminution des comportements inappropriés. Et peut-être que c'est un espoir, que l'évolution de conscience.
Ça dépend des cultures. Ça dépend des cultures, parce qu'il y a des.
Vous avez vu les différences culturelles
dans lesquelles. Ah, bah oui.
Oui.
Ah, bah oui.
Oui.
Ben oui.
D'accord, non, mais dites-moi.
Oui, ça c'est. Mais bon, on ne peut pas en parler, parce que bien évidemment, les stats, on ne peut pas en parler.
Il y a un problème de transparence dans la police. On a du mal déjà, nous, à avoir des statistiques sur les séparations, sur les disparitions d'enfants. On a beaucoup, beaucoup mal à avoir les stats.
C'est pas une question de la police. Je pense que c'est les institutions en règle générale qui ne veulent pas traiter sur des recherches, en fait, des recherches d'anthropologie, des recherches qui pourrait être faite par des sociologues ou autres. Je veux dire, voilà, généralement, par exemple, les femmes, on va dire d'origine franco-française, non plus, je ne veux pas dire qu'elles ne l'ont pas été, mais non plus pour habitude d'aller frapper leurs enfants avec des câbles d'iPhone, par exemple. Il y a des cultures africaines dans lesquelles ça, c'est un truc qui est très courant. Donc, on va se retrouver, en fait, avec des... avec des choses que nous, on faisait avant. Donc, il y a 30, 40 ans, effectivement, bah, les enfants, on les frappait. Il y avait, c'était quelque chose qui était reconnu. Et voilà, la fessée,
oui,
elle a été interdite.
La ceinture, le martinet,
dans la loi.
Ça a existé.
Exactement.
Oui, oui.
Ça a existé, sauf qu'aujourd'hui, nous, on ne le pratique plus, mais il y a des cultures voilà, qui le pratiquent encore. Donc, il y a des différences culturelles là-dessus. En revanche, dans nos... C'est compliqué de parler de ce sujet-là sans rentrer justement dans
ouais,
le communautarisme,
sans déraper,
ou dans
sans
le
montrer du doigt,
ou autre.
Je comprends. Ouais.
Exactement. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que dans les familles, on va dire... très occidentalisée dans des familles comme la mienne, par exemple, les violences, elles ne vont pas être physiques. On va être dans des violences qui vont être psychologiques, on va être dans le phénomène d'emprise, on va être dans... c'est une autre forme de violence. Voilà. Donc, la violence n'est pas la même partout, elle ne se traite pas de la même manière partout. Voilà. Donc, il y en a de la violence, et de la violence physique, et elle n'est pas... elle n'est pas reconnue partout de la même manière et elle dépend beaucoup des cultures. Ouais, et comme en France, on est quand même dans un pays qui est très pluriculturel, on peut se retrouver face à des situations voilà, qu'on ne pourrait pas imaginer ici aujourd'hui en France sur le territoire français parce que c'est pas dans, c'est plus dans notre culture.
Ok, très bien. Merci beaucoup. Merci.
Sailor knows that the sea is a friend made enemy, and every shipwrecked soul knows what it is to live without intimacy. I thought I had the captain's voice, but it's hard to listen while you preach like every broken wave on the shore. This is as far as I could reach. If you go, if you go your way and I go mine, are we sold? Helpless against the off our feet.